Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de Nu Info. Au menu 2018, une année record avec le plus grand nombre d'enfants tués ou mutilés dans un conflit armé jamais enregistré par l'ONU. L'UNICEF cherche à tripler son financement pour affronter l'épidémie d'Ebola en RDC. Le Haut Commissariat des droits de l'homme invite Israël à mener une enquête indépendante sur l'enfant palestinien blessé à la tête par un tir. Et en dossier, deuxième partie de notre série sur l'hépatite. L'année 2018 a été marquée par le plus grand nombre d'enfants tués ou mutilés dans un conflit armé depuis que les Nations Unies ont commencé à surveiller cette grave violation des droits humains. C'est ce qu'indique le dernier rapport annuel du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, publié ce mardi. Au total, plus de 24 000 violations ont été constatées en 2018 dans les 20 situations de conflit surveillées par les Nations Unies. Jérôme Bernard nous en dit plus.
Plus de 12 000 enfants ont été tués ou mutilés l'an dernier, principalement à la suite d'incidents impliquant des fusillades, des restes explosifs de guerre, des engins piégés, des mines antipersonnelles et des affrontements. Les responsables sont des acteurs non étatiques, mais aussi des acteurs étatiques et des forces multinationales. Des milliers d'enfants ont également été recrutés en 2018 par des forces armées ou des groupes armés. D'autres ont été victimes d'enlèvements, de violences sexuelles, ont souffert d'attaques contre des écoles et des hôpitaux ou d'absence d'accès à l'assistance humanitaire. La représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba, s'est déclarée attristée par le fait que les enfants continuent d'être touchés de manière disproportionnée par les conflits armés. Selon elle, les belligérants ont le devoir de faire de la protection des enfants une priorité. Les parties en conflit doivent assumer leur responsabilité de protéger les enfants et mettre en place des mesures concrètes pour mettre fin et prévenir ces violations, a-t-elle dit à l'occasion de la publication du rapport. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est quant à lui dit démoralisé par le nombre de violations commises contre les enfants. Il a rappelé aux belligérants qu'ils doivent respecter leurs obligations inscrites dans le droit international, en particulier la protection spéciale accordée aux enfants.
À 2 jours du premier anniversaire de l'apparition de l'épidémie d'Ebola dans le nord-est de la République démocratique du Congo, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a lancé un appel ce mardi pour tripler son budget dans le pays. Celui-ci passerait de 50 millions à près de 170 millions de dollars et permettrait de faire face à la crise particulièrement complexe que représente cette épidémie. Les précisions de Jérôme Pfaffmann, spécialiste de la santé à l'UNICEF, il vient de rentrer de son troisième déploiement dans la zone affectée.
C'est important après un an dans cette réponse à l'épidémie au nord-est de la RDC de se rendre compte qu'on a besoin de faire plus. On est arrivé à mettre en place des programmes, faire en sorte que cette épidémie ne soit pas hors de contrôle, mais on n'a pas encore réussi à la contrôler. Pour pouvoir arriver à contrôler cette épidémie, il y a un changement qui va être nécessaire dans notre façon d'intervenir, et c'est ce que le plan stratégique met en place, c'est qu'on doit non seulement continuer à intensifier nos réponses pour le contrôle de l'épidémie d'Ebola, mais on doit également apporter une réponse plus large aux besoins des communautés qui vivent dans des conditions humanitaires et sociales très très complexe. Donc cela signifie clairement que, en plus de nos activités d'Ebola, on doit également mettre en place des programmes de vaccination, d'accès aux soins, de protection de l'enfance et d'accès à l'eau et à l'assainissement, afin que ces communautés qui sont affectées par Ebola puissent bénéficier d'une réponse complète qui réponde à leurs besoins et ainsi améliorer cette réponse à l'épidémie en même temps que cette réponse à leurs besoins.
Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme se dit préoccupé du sort d'un enfant palestinien dans un état critique après avoir été blessé à la tête par un tir à balles réelles. Le Haut Commissariat rappelle que cet incident est le dernier d'une longue liste dans laquelle des enfants et des adolescents ont été blessés ou tués par les forces israéliennes. Or, comme le souligne Rupert Colville, le porte-parole du Haut Commissariat, les enfants ne doivent pas être ciblés, menacés de violence ou encouragés à y participer.
Selon plusieurs sources crédibles, cet enfant de 9 ans, Abdourahman, ne participait pas activement à la manifestation hebdomadaire qui a eu lieu dans le village de Kafar Kadoum, près de Naplouse. Il était à plus de 100 mètres des affrontements et ne constituait manifestement pas une menace physique imminente pour les forces de sécurité israéliennes. La balle dans le front provoqua un grand trou et de multiples fractures du crâne. D'abord amené dans un hôpital de Naplouse, Abdourahman a ensuite été transféré dans un hôpital israélien où il restait resté en vie, mais dans un état critique. Les radios montrent des dizaines de fragments dans la tête de l'enfant, entraînant des lésions cérébrales graves dont il ne pourra probablement pas se remettre, même s'il survit. La fusillade d'Abdourahmane est l'un des derniers d'une longue liste d'incidents dans le territoire palestinien occupé, dans lequel des enfants et des adolescents ont été blessés ou tués dans des circonstances qui suggèrent fortement que les forces de sécurité israéliennes ont eu recours à un usage excessif de la force.
Retour sur la deuxième partie de notre dossier portant sur l'hépatite. L'Organisation mondiale de la santé appelle tous les pays à investir dans l'élimination de cette maladie. Près de 80% des personnes infectées par le virus de l'hépatite n'ont pas accès aux services dont elles ont besoin pour prévenir, dépister et traiter la maladie. De nombreux pays commencent à investir dans la prévention. Pour mieux comprendre, Florence Westergaard a joint Dr Niklas Luchmann, expert au programme mondial contre l'hépatite à l'OMS.
Il y a effectivement l'Égypte, mais il y a aussi d'autres pays en Afrique qui commencent un vrai effort de s'attaquer ou de travailler sur cette élimination, notamment le Rwanda, aussi l'Ouganda commence à investir dans cette question.
Et on parle de l'hépatite, mais l'hépatite, on attrape l'hépatite comment justement ? Est-ce qu'on peut vivre avec l'hépatite ?
Alors, par rapport à la transmission, en fait, ce n'est pas le même mécanisme pour les différentes hépatites. Donc, ça va être un peu complexe de donner l'exemple de l'hépatite C. Donc, elle se transmet vraiment par sang. Donc, elle est transmise notamment via des injections qui ont lieu ou des actes qui ont lieu dans le système de santé et dont on n'a pas appliqué les précautions universelles dans le système de santé, mais aussi, par exemple, par le partage des matériaux qui sont utilisés dans le cadre de l'injection des substances illicites par les injecteurs de drogue. Donc, là sont les raisons principales de l'épidémie de l'hépatite C, bien sûr, avec des grandes différences pays par pays, où il y a des pays où c'est beaucoup dû à une transmission dans le système de santé, notamment historiquement, quand les systèmes de santé étaient encore moins développés, et d'autres pays où c'est plus lié à l'usage de drogue par voie intraveineuse. Ça, c'est pour l'exemple de l'hépatite C. Après, pour les hépatites virales, notamment le B, le C, c'est donc des maladies chroniques virales qui peuvent créer une maladie du foie, donc avec un développement des tableaux de cirrhose du foie ou qui peuvent conduire aussi au cancer du foie. Donc c'est souvent des maladies chroniques qui se développent sur plusieurs décennies. Et donc entre l'infection et vraiment la maladie avancée, très souvent ça prend plusieurs décennies.
C'est pour ça que la prévention ou le dépistage est très important, n'est-ce pas, pour l'hépatite ?
Oui, donc ce qui se passe effectivement, c'est très intéressant, c'est que aujourd'hui, on a énormément de personnes qui ont été infectées dans les dernières décennies. Disons aussi quand il n'y avait pas encore de réponse à cette problématique. Donc toutes ces personnes sont aujourd'hui malades. Donc pour eux, la question principale est vraiment de les dépister et de les traiter pour permettre de vivre en bonne santé et de prévenir, disons, les états très avancés de l'hépatite chronique. Et après, il y a un autre défi qui est de réduire les nouvelles infections. Et pour cela, il faut effectivement investir dans la prévention. Encore une fois, il y a des mécanismes de prévention très efficaces qui sont pour l'hépatite B, par exemple la vaccination, mais aussi la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Et aussi, après, pour les deux hépatites virales B et C, la réduction de risque auprès des usagers de drogue. Donc, pour vraiment diminuer le nombre encore très important de nouvelles infections, il faut investir aussi dans la prévention. Et cela permettra d'avoir moins de personnes qui vivent avec la maladie. Donc c'est vraiment sur ces deux plans-là qu'il faut investir.
Donc quel est l'appel de l'OMS en cette journée mondiale de l'hépatite ?
Cette année, vraiment, l'appel est d'une certaine manière à passer à l'étape de l'investissement et de permettre vraiment d'accélérer le rythme vers cette élimination. Donc c'est à la fois ces États membres qui devront vraiment investir encore plus, mais on appelle aussi aux bailleurs, disons, multilatéraux ou bilatéraux, de considérer que c'est un très bon investissement pour améliorer la santé globale des personnes.
Voilà, fin de ce journal de Nu Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.